Ce que je voulais vous partager ce matin, c'est justement cet amour de Jésus, cet amour dépendant. Un enfant, lorsqu'il naît, il est totalement dépendant de ses parents. Il attend d'eux qu'ils prennent soin de lui, qu'ils le nourrissent, qu'ils le lavent, qu'ils lui donnent à manger. Et les chrétiens, dans de nombreuses églises, viennent chaque dimanche et entendent aussi la bonne nouvelle du salut de ce Jésus. Certains dimanches, nous confessons, nous déclarons, nous affirmons à travers nos prières, nos louanges, des propos qui peuvent être forts. Parfois, nous entendons discrètement à travers un message un appel à la repentance, un appel au pardon, un appel à la bienveillance. Parfois, nous entendons un appel à venir au Saint-Esprit pour qu'il transforme nos cœurs, pour qu'il transforme nos vies. Moi, j'aurais deux questions à vous poser ce matin. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Moi, je me la suis posée. Qu'attendez-vous de Dieu ? Qu'attendez-vous de Dieu ? C'est vrai. Chaque dimanche, nous venons pour qu'il fasse comme un parent, pour qu'il nous lave de son sang, pour qu'il nous nourrisse de sa parole, pour qu'il prenne soin de nous. Mais au fond de notre cœur, la diapo suivante, qu'attendons-nous de Dieu ? Cette question, elle est personnelle à chacun. Et je vous ai donné des petits, on vous a donné des petits papiers ce matin. C'est justement pour pouvoir répondre à cette question. J'ai souvent entendu dire, moi, j'attends rien de Dieu, mais moi, ça va très bien dans ma vie. Ce sont souvent des personnes qui, justement, n'ont pas de besoin. Ils ont une très bonne santé, ils ont un bon travail ou une bonne retraite, des besoins financiers qui leur suffisent. Ils ont tout dans leur vie qui peut correspondre à leurs besoins actuels. Jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où ils font le bilan de leur vie. Jusqu'au jour où il arrive quelque chose qu'ils n'attendaient pas, qui met en péril leur santé, leurs finances ou autre. Steve Jobs a dit, peu de temps avant de mourir, que vous ayez une maison de 300 mètres carrés ou une maison de 3000 mètres carrés, bon, il voyait large hein, quand même, parce que déjà 300 mètres carrés, ça fait beaucoup, la solitude, elle est la même. Et ça, c'est vrai. Lui, il n'attendait rien. Il avait tout. Jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où l'argent n'a pas empêché la maladie d'arriver. Et puis, il y a d'autres personnes qui attendent tout de Dieu, comme un distributeur automatique. Mais ils ne reçoivent pas toujours et sont déçus. Pourtant, dans les Écritures, il est dit « Demandez et vous recevrez. » Matthieu 7, 7, 12. Pierre Aguila, un prêtre et enseignant, a dit « Jésus a dit « Demandez et vous recevrez. » Mais il n'a pas dit que vous recevrez tout ce que vous voulez et quand vous le demanderez. Car encore faut-il être en accord avec la volonté de Dieu. Il vous donnera quand il pensera que c'est bon pour vous, en son temps qui n'est pas le nôtre. Encore faut-il tout accepter de Dieu. Et c'est là où les choses se compliquent. Car l'être humain veut bien prendre les bonnes choses, mais laisse de côté ce qui pourrait lui porter préjudice. Ou alors ce qui met en péril son confort, son quotidien. Souvent, ils sortent des versets en fonction de ce qui leur fait du bien, en fonction de ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils les sortent de leur contexte, tout simplement parce que ça leur fait du bien. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu ? Dieu veut notre bonheur, nous le savons. Dieu veut nous transformer, nous le savons. Il veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair, si nous le laissons faire. Alors à cette première question, on pourrait répondre « J'attends que sa volonté soit faite dans ma vie. » Et la deuxième question que j'aimerais que nous nous posions, c'est « Et qu'est-ce que Dieu attend de nous ?» Ah aussi, c'est une bonne question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Lorsque nous regardons les évangiles, nous remarquons que Jésus aimait ses disciples et il les aimait d'un amour incroyable. Il les aimait, il les enseignait, il les formait, car il savait qu'un jour, il ne serait plus là. Il ne serait plus avec eux. Alors, il y a un dicton qui dit « mettre le pied à l'étrier ». Mettre le pied à l'étrier, c'est aider le cavalier à mettre son pied dans l'étrier de la selle afin que par impulsion, il puisse s'asseoir sur la selle et s'installer confortablement. Mais mettre le pied à l'étrier signifie aussi démarrer, commencer quelque chose. Durant son ministère sur terre, Jésus a mis le pied à l'étrier à chacun de ses disciples. Il les a aidés pour qu'une fois seuls, ils puissent démarrer ce qu'il leur avait enseigné. Il les a aidés, il les a menés au combat pour le plan de Dieu, pour ce que Dieu avait prévu pour chacun d'eux, pour la propagation de l'Évangile, pour qu'ils accomplissent la volonté de Dieu dans leur vie et dans celle des autres. Mais que s'est-il passé lorsque Jésus a été crucifié ? Que s'est-il passé ? Les disciples se sont retrouvés perdus, désemparés, anéantis, ne sachant même plus quelle était la bonne direction, ce qu'ils devaient faire. Et si ce Messie qu'ils attendaient était vraiment celui-là, ce Jésus qu'ils attendaient, était bien celui qui était avec eux pendant plusieurs années. Pourtant, il leur avait dit ce qu'il attendait. C'était simple. Allez dans toutes les nations, faites de ces nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je ai prescrit. Ils ne l'ont pas cru. Quand il est parti, ils ont été désemparés, perdus. Et c'est seulement quand il est revenu qu'il a montré l'épreuve de ses mains percées, de son côté. C'est seulement quand ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont cru. Et nous, qu'en est-il lorsque le culte est terminé ? Qu'en est-il quand nous nous retrouvons seuls à la maison ? Qu'en est-il lorsque nous sommes au travail, avec des amis ? Est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous ? Dans ses lettres, Jacques dit ceci, « Toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, et reste attachée, il la met en pratique, sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite, eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours trouver une bonne excuse pour ne pas obéir. J'ai pas le temps, je suis fatiguée, je suis trop vieux ou je suis trop jeune. Mais Dieu, il sait tout ça. Il le sait qu'on est trop vieux ou qu'on est trop jeune. Il le sait qu'on est fatigué. Il le sait qu'on n'a pas le temps. Il sait même aussi qu'on se distrait avec plein de réseaux sociaux qui nous servent strictement à rien. Il sait tout ça. Il sait qu'on se laisse déborder par des futilités. Mais quand on commence à obéir, à faire un premier pas, vers Jésus. Lui, il fait le deuxième. Et quand vous faites le troisième pas, lui, il fait le quatrième. Jésus a dit, je ne peux rien faire sans mon Père. Mais nous, est-ce qu'on est plus fort que Jésus? Est-ce qu'on peut faire par nous tout seul? Je ne peux rien faire sans mon Père. Quand vous commencez à obéir, c'est là que la capacité du miracle et la provision arrivent. Car Dieu ne cherche pas des gens capables, il cherche des gens disponibles. Alors c'est vrai que souvent, quand on prie, et on l'a appris pendant ces 3 jours, on dit « Seigneur, tu vois comme il est malade. Aie pitié de lui, il souffre. Pose tes mains percées sur lui. » En fait, c'est comme si on disait à son patron qui vient de vous confier une mission « Hey, tu veux pas le faire pour moi ?» Ben, c'est aberrant, en fait, quelque part. Dieu nous dit « Je te confie une mission, je veux que tu la fasses. » Et puis nous, on lui dit « Hey, tu veux pas le faire pour moi ? Tu veux pas construire cette charpente à ma place ?» Non, mais il dirait « Hey, oh, tu exagères là quand même un petit peu. » Guérissez les malades. Propagez la bonne nouvelle. Témoignez. La volonté de Dieu, c'est de nous enseigner à aimer. C'est simple. La volonté de Dieu, c'est nous enseigner à aimer. C'est-à-dire, c'est ces 2 premiers commandements. Et à l'aimer en retour. Tout simplement. Aimons-le de toute notre force, de toute notre pensée, de tous nos cœurs. Mais aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et prenons-en soin. Ce n'est pas tout de l'aimer, mais d'en prendre soin. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Être aimé et aimé, tout simplement. De prier pour ceux qui ne sont pas encore à lui. D'être enseigné, enseignable. Et d'avoir une véritable compassion pour tous. De témoigner de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Parce que si nous ne témoignons pas, quelque part, c'est qu'on l'oublie. Ce qu'il a fait pour nous. On oublie ce qu'il a fait pour nous. Hier, nous avons vraiment vécu des choses incroyables de nombreuses personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Ça, je crois que c'est la plus belle bénédiction, le plus beau cadeau que Jésus peut nous faire, c'est de voir des gens plier le genou et donner leur vie à Jésus. Nous avons vu aussi le Saint-Esprit traverser des personnes qui en avaient besoin. Nous avons vu des délivrances incroyables. Nous avons vu des guérisons incroyables. Une personne dont la jambe s'est rallongée sous mes yeux. Des mâchoires cassées se réparer. Alors bien sûr, on ne voit pas tous les jours ce genre de choses autour de nous. Mais notre témoignage, est-ce qu'autour de vous, tout le monde l'a entendu? Est-ce que vous l'avez donné à tout le monde? Est-ce que vous avez dit ce que Jésus a fait dans votre vie à tout le monde autour de vous pour qu'il se pose des questions? Et c'est ça que je voudrais qu'on puisse honorer ce matin, le témoignage. Les petits témoignages, honorons les petits commencements, parce que ça commence par une petite chose, puis après une plus grosse, et une plus grosse, et une plus grosse, jusqu'à temps que vous voyez vraiment la bénédiction de Dieu et des miracles dans votre vie. Je vais terminer alors juste par ce témoignage d'une personne qui s'appelle Dodi Austin, qui a été diagnostiquée d'un cancer du foie, stade terminal. Son fils médecin, quand on lui a annoncé, est sorti de la chambre pour pleurer, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Et cette personne, elle est rentrée chez elle, parce qu'ils avaient décidé qu'il fallait qu'elle rentre chez elle pour mourir, mais elle en avait décidé autrement. elle a décidé que tous les jours, elle prendrait un verset de la Bible qui parle de la guérison et tous les jours, elle se le répéterait en méditation. Et cette personne a été guérie de son cancer du foie parce qu'elle a prononcé des paroles de bénédiction sur sa vie tous les jours et qu'elle a cru aux promesses de Dieu. Amen.